Kiosque Magazine.
Bonjour et bienvenue à Kiosque Magazine. Vous êtes en compagnie de Dominique Meillet, de Janine Petitbois. Et aujourd'hui, nous avons une invitée, c'est Sophie Chevance, voilà, qui va faire partie de l'équipe.
Bonjour à tous.
Bonjour Sophie, bonjour Dominique.
Bonjour. Aujourd'hui, on est le 17 décembre déjà. C'est notre dernière émission pour l'année 2014. Vous vous rendez compte comme ça passe vite.
Ça passe vite.
Voilà. Et pour cette dernière émission de 2014, moi, je vais vous parler d'un petit... Enfin, je vais vous lire un petit texte. C'est « Donner selon ses moyens ». Le grand décompte beauté avant les festivités. Mon premier Noël sans mes enfants et en déboulant vers Noël, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on va jusqu'à Noël. Voilà. Et toi, Janine, tu nous parles de quoi?
Eh bien, on va aller vers les séparations, amis séparés, couple en péril. Est-ce qu'on se pose la question? Une belle petite rencontre avec notre acteur préféré, Luc Guérin. Et nous avons aussi une rencontre avec Philippe Dubuc, notre designer, qui est de retour. Donc, à table avec Philippe Dubuc.
Et voilà, à tout de suite.
Eh bien, comme on a dit, amis séparés ou couple en péril. Nos amis se séparent, leur rupture entraîne bien des bouleversements chez eux, bien sûr, mais aussi au sein de notre couple. Un article d'Isabelle Bergeron dans le coup de pouce de janvier. C'est à la petite cuillère que Marie-Louise a ramassé son amie Ève quand Alexandre l'a laissée il y a 2 ans. On se connaît depuis 12 ans et elle était en couple depuis 4 ans, explique la femme de 41 ans. Ça avait bien cliqué entre son chum et le mien et on se voyait souvent en couple. Les gars sortaient aussi ensemble sans nous. Mais si la chimie entre les deux couples était bonne, il était clair pour Marie-Louise que Kev allait rester dans sa vie et que son ex, lui, allait disparaître dans la nature. D'autant qu'il était parti pour une autre qui était déjà dans sa vie alors qu'il était encore en couple. Son conjoint n'a plus jamais revu Alexandre non plus. Je sais qu'ils se sont parlé quelques fois au téléphone, mais mon chum me disait qu'il n'approuvait pas la façon plutôt abrupte avec laquelle Alexandre avait quitté son ami et qu'il ne souhaitait pas maintenir le lien avec lui. Heureusement, car je ne sais comment j'aurais géré ça, lance Marie-Louise. Un petit monde s'écroule. Être témoin de la rupture d'un couple d'amis n'a évidemment rien de réjouissant pour eux, bien entendu, mais aussi pour nous. « On doit faire le deuil d'une partie de notre vie », résume Marie-Hélène Simard, psychologue et co-auteure de « La rupture amoureuse ». Tout ce qu'on avait l'habitude de faire ensemble disparaît. Les liens qu'on avait s'effacent ou alors ils se transforment inévitablement. Un effet contagieux, en plus d'avoir un impact profond sur la jeune femme, je laisse difficilement de nouvelles amitiés féminines entrer dans ma vie. Cette rupture a aussi remis son couple en question. C'était la deuxième fois en peu de temps qu'un couple de nos amis se séparait, dit Anne-Marie. Je n'ai pas pu faire autrement que de me demander si on n'allait pas être les prochains. Marie-Louise s'est posé la même question. Je me suis demandé si ça pouvait nous arriver aussi, dit-elle. La réponse, bien sûr que oui, mais au lieu d'envisager la situation comme une menace, elle l'a plutôt vue comme l'occasion de faire un bilan de son couple. Communiquait-il suffisamment? Se cachait-il des choses? Avait-il des reproches à se faire? Quand un couple d'amis se sépare, c'est souvent l'occasion de remettre son propre couple en question, dit John Wright, psychologue spécialisé en thérapie de couple. Ça peut aussi nous ramener à discuter de sujets sensibles, comme l'infidélité, de partager notre point de vue sur ce qui est arrivé à nos amis et de voir comment nous, on aurait réagi. Pour Marie-Hélène Simard, la pire chose à faire serait de croire que ce qui est arrivé à nos amis ne pourrait pas nous arriver à nous, même si elle croit également qu'une telle situation peut resserrer les liens de notre couple. Par exemple, ça peut nous faire réaliser que notre couple n'est pas acquis, qu'on doit demeurer vigilant, dit-elle, et les conversations de cette séparation pourra peut-être nous rapprocher. Mon Dieu, je ne suis pas là ce matin, moi. Patricia, 37 ans, avoue que voir ses amis Sophie et François bénéficier de quelques jours sans enfants grâce à la garde partagée la séduisait. Je me disais que ça devait être bien d'avoir quelques jours de répit, de pouvoir rentrer tard, de ne pas préparer le souper. Et ça ne me tentait pas. Une idée alléchante, mais qui n'aurait jamais conduit Patricia à la rupture. Je pense que tous les parents du monde trouveraient l'idée agréable. Mais je sais aussi que Sophie et François ont eu beaucoup de difficultés, surtout au début, à vivre ces quelques jours sans enfant, raconte Patricia. Heureusement, leur rupture s'est déroulée pacifiquement, ce qui a rendu les choses plus faciles pour eux et leurs enfants, et pour mon chum et moi aussi. Préserver l'amitié. Le quatuor que formait le couple de Patricia et celui de Sophie a résisté à l'épreuve de la rupture. Non, sans quelques remaniements. J'étais amie avec Sophie avant de l'être avec François, dit-elle. Mais ce dernier a fini par prendre autant de place dans mon cœur qu'elle, et il n'était pas question que je choisisse entre les deux. Mon chum ressentait la même chose que moi. Une rupture en mauvais termes aurait certainement placé Patricia et son conjoint dans une position très délicate. Comment, en effet, être amie avec l'un et l'autre alors que les deux se font la guerre? Ça n'aurait pas été facile, je l'avoue, dit Patricia, mais même s'ils se sont séparés en assez bons termes, ça n'a pas toujours été évident. Pour John Wright, le mieux est d'être franc avec les deux ex-conjoints et de leur exprimer notre désir de préserver notre amitié avec l'un et l'autre, en précisant qu'on les aime tous les deux et qu'on souhaite rester neutre, ajoute la spécialiste. Ce que Patricia et son conjoint ont fait, une mise au point qui, avec un peu d'eau passée sous les ponts, a fait en sorte que tout le monde a trouvé sa place dans le nouveau portrait. Patricia admet que lorsque le couple que ses amis formaient s'est brisé, une grande tristesse l'envahit. Pour eux d'abord et pour leurs enfants et pour elle aussi, car même si elle allait continuer à les voir tous les deux, leur vie à tous ne serait jamais plus la même. C'est un deuil à faire, dit-elle, mais comme pour n'importe quelle épreuve, le temps passe et les choses finissent par se replacer. C'est la vie.
Selon ses moyens. On veut donner, mais on manque de temps, d'énergie, d'argent. Voici plusieurs façons de faire. Alors, c'est par Nadine Deschenaux, dans le coup de pouce de décembre 2014. Les pharmacies, les épiceries, les grands magasins placent près des caisses des boîtes pour recueillir les dons. On choisit une cause qui nous tient à cœur et on fait don spontanément de notre monnaie. Un bon café, ça réchauffe. Quand le temps froid arrive, pourquoi ne pas payer un café en attente qui sera donné à quelqu'un dans le besoin. À certains endroits, on peut aussi acheter un souper, une collation ou un sandwich. Pour connaître les cafés participants, c'est caféenattente.org. Pour donner un petit peu plus, en faisant nos achats des fêtes, on gâte un enfant défavorisé de notre région en déposant un livre neuf dans une des boîtes de collecte, la lecture en cadeau dans les librairies ou les écoles participantes. Pour en savoir plus, fondationalphabétisation.org. En échange d'un don, même minime, à l'Association pulmonaire du Québec, on recevra chaque année les traditionnels timbres de Noël pour enjoliver nos cartes de Noël. Cette initiative existe au Canada depuis au moins 100 ans. Info pq.poumon.ca. On achète des mitaines, des bas, une tuque et un foulard qu'on remet soit directement à un sans-abri, soit dans un refuge qui leur vient en aide. On peut aussi aider un écolier mal nanti en remettant ce don à une école. Jouer au Père Noël, c'est amusant. On s'engage à acheter un cadeau à un enfant avec qui on sera jumelé et de qui on recevra une lettre contenant ses souhaits de cadeau. On s'inscrit en ligne à opérationpèrenoël.com. Une nuit pour une famille au manoir Ronald McDonald coûte 10 $. Alors avec 70 $, on aide une famille qui habite au manoir et n'a pas de programme de soutien financier à souffler un peu. Info manoirquebec.ca. Enfin, on oublie parfois qu'ailleurs dans le monde, des familles peinent à manger suffisamment. Un don de 100 $ permet d'offrir une chèvre à une famille. Mine de rien, c'est 20 litres de lait par mois qu'on leur donne ainsi. Un cadeau qui dure toute l'année et plus encore. Info visionmondiale.ca. Alors ça, c'est pour donner un petit peu d'argent. On peut aussi donner un petit peu de son temps. On signe notre carte de don d'organes et de tissus où on s'informe des autres façons de signifier notre consentement sur signerdon.gouv.qc.ca. Un petit geste rapide qui peut sauver jusqu'à 8 vies et redonner la santé à 15 autres personnes. En faisant notre épicerie, on choisit une boîte de céréales, des biscuits, du jus, du shampoing, du bain moussant, du riz ou tout autre aliment non périssable et on dépose notre contribution dans le bac pour les paniers de Noël à la sortie. On peut aussi les offrir à la guignolée du bureau ou à l'école des enfants. Un peu de ménage avant les fêtes, ça fait du bien. On apporte de vieux vêtements, des livres et des jouets encore propres et utilisables dans un centre de don près de chez nous. On se met une note à l'agenda pour un don de sang. Les besoins sont constants, environ 1000 dons par jour pour fournir les hôpitaux du Québec. Mais souvent, plus difficilement comblés durant les fêtes. On s'informe à emma-quebec.qc.ca. Tant qu'à être au fourneau, on cuisine en grande quantité et on offre les portions supplémentaires à des gens de notre entourage qui en ont besoin. Nos voisins âgés, notre amie nouvelle maman, la collègue en convalescence. On offre nos services pour emballer des cadeaux dans les centres commerciaux afin d'amasser des dons pour un organisme. On surveille les annonces de recherche de lutins emballeurs dans l'hebdo du quartier ou on téléphone au centre commercial le plus près de chez nous. Pendant les fêtes, les guignolées sont nombreuses et nécessaires, mais elles ont souvent besoin de bénévoles pour recueillir les denrées et les dons. Pourquoi ne pas en faire une activité familiale? On connaît une famille qui a de la broue dans le toupet ou dont les parents auraient vraiment besoin de répit. On propose de garder leurs enfants sans réciprocité pour les soulager. Ça peut faire toute la différence. Et enfin, dernière tournée en étant bénévole pour l'opération Nez Rouge. On raccompagne les gens qui ont un peu trop fêté tout en rencontrant d'autres bénévoles. Ça, c'est opérationnezrouge.com. Et on peut aussi donner selon ses talents. On est bonne cuisinière, on devient aide cuisinière dans une popote roulante. On est polyglotte, on propose nos talents d'interprète ou de traductrice à des organismes qui aident les nouveaux immigrants ou même à certains musées. Comme le musée canadien de l'histoire de Gatineau. On élève tôt, on va dans une école distribuer un déjeuner et des sourires avec le club des petits déjeuners. Si on est musicienne, on va jouer dans un CHSLD ou une maison de retraite où on donne des cours dans une maison de jeunes. On est bonne tricoteuse, on rejoint un groupe de tricot et on donne notre production à un organisme qui le remettra à des familles dans le besoin. On est coiffeuse, esthéticienne, massothérapeute. On offre nos services gratuitement dans un centre de personnes âgées. On est patiente et douce. On donne du temps dans un centre pour briser l'isolement des personnes âgées.
Variation sur le verbe donner. Il est normal que l'arbre donne des fruits. La moutonne s'haleine. La grand-mère des nouvelles, l'amoureuse sa main. Il est normal que le sel donne soif, que la mort donne un choc et qu'on donne du pain aux pigeons citadins. Un coup de pied donné, s'il est bien donné, souvent est pardonné après quelques années. Donner de l'herbe, la nature le fait. Ne rien donner, tous les hommes le font. Je donnerai ma mise, mon lit et ma chemise s'emploient chez gens qui s'aiment à longueur de semaine. Donner son sang parfois, donner sa vie aussi, ordonner sa maison déjà ne se dit plus. Il me donne des frissons, disent toutes les filles, et moi la chair de poule, disent toutes les mères. Je me donne du tabac, je te donne 2 heures, il me donne du fil à retordre, je lui donne mon avis. Moi je connais un homme qui ne doit rien à personne, qui sait tout mériter, qui jamais n'a reçu plus que donner ses yeux, plus que donner l'espoir. Il m'a donné d'un coup 22 ans de sa vie. il m'a donné son parapluie. C'était un bout de bois avec le petit toit qui s'ouvre et qui se ferme par un jeu de baleine. La continuation de sa main, sa raison, sa canne, son témoin, son arbre, sa défense et sa sécurité. Il se l'est amputé, qu'on m'en donne son cœur, voilà, je te le donne, je boiterai peut-être. Je perdrai l'équilibre. Si vous voulez savoir si un homme vous aime, attendez qu'il vous donne son parapluie.
Eh bien, voilà, Dominique. Un charmant souvenir,
ah,
Félix
oui.
Leclerc.
Très jolie chanson.
Ben oui, variation sur le verbe donner. Alors, et moi, je vous fais une rencontre avec Luc Guérin, un article de José Larrivé. Donc, il a une voix très théâtrale, de grands yeux bleus qui nous scrutent l'âme et une intelligence branchée sur le cœur. Il a une carrière en crescendo, tout ayant véritablement commencé avec Willie, avec des sommets, son fameux docteur Laprade dans Trauma, maintenant le psy Steven Picard dans Unité 9. On a presque hâte à son prochain rôle, juste pour voir si ça se peut d'être encore meilleur. Sinon, il vit à la campagne, il magazine, cuisine, médite et tripe sur tout ce qui a trait au quotidien de sa vie. Il est père de deux grandes filles qui ont quitté le nid et partage sa vie depuis 11 ans avec la comédienne Catherine Sénard. C'est à peu près tout ce que je sais de lui. Avant ce lunch à l'Express, cette institution de la rue Saint-Denis où il a depuis 20 ans son pied-à-terre, ah oui, il y mange toujours des raviolis. Une maison où voyager, la voix théâtrale, ce n'est pas manifesté tout de suite, mais les grands yeux bleus, ça oui. On a commencé par parler de voyage, un sujet hors norme pour un homme qui, au final, voyage assez peu. Catherine et moi, on a conçu notre maison des Laurentides en s'amusant à croire que ce serait notre genre de resort. La maison, c'est un lieu de voyage en quelque sorte. On l'a imaginé et on l'a fait dessiner en conséquence. C'est un beau spot avec une vue incroyable. Notre maison, c'est l'antidote au stress, au travail, à la vitesse, à la cohue. Chez nous, la nature s'impose. Et ça me ramène à ma place. Un élément et non le centre du monde. L'évasion est facile. Du yoga, de la méditation, une musique qu'on aime, quelques amis choisis. On a l'esprit ludique. On mange toujours très bien. Les draps sont propres. L'environnement est magnifique. Et il y a de l'amour dans l'air. Que demander de plus? Il a beau souligner avec beaucoup d'humour son côté casanier, il rentre quand même d'un voyage en Islande. D'ailleurs, on assistera bientôt à son périple, car il a fait pour le compte de partir autrement en famille, et l'émission sera diffusée cette année sur les ondes de TV5. On les verra avec son amoureuse et ses deux filles, Katou, 23 ans, et Fanny, 25 ans. Elles ont accepté de jouer le jeu de caméra et Katou, qui étudie en cuisine, s'est découvert une belle relation avec les Kodak. Fanny, sur les traces de sa mère médecin, étudie en neuropsychologie. Une pour me nourrir et une pour me soigner, lâche-t-il. Sourire en coin. En Islande, ils ont fait un voyage fabuleux. Les paysages lunaires, ça change des Laurentides quand même. Un personnage attachant, impossible de ne pas lui parler de ce psy qu'il joue dans la prison d'Unité 9. Il a beau normalement prendre les personnages pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire de la fiction, on dirait que celui-ci lunche avec nous. C'est peut-être finalement parce qu'il a un peu beaucoup de l'homme dans le personnage. Il nous fait voir l'humanité au-delà de l'atrocité. Luc Guérin aurait-il pu tenir un rôle à 40 ans? Il réfléchit. Je ne sais pas, mais je suis intimement persuadée que les choses arrivent quand on est prêt à les assumer. J'ai cru à 30 ans que le fun était over avec la trentaine. 25 ans plus tard et 30 ans de métier, je peux confirmer que je goûte plus. Je vois mieux et je jouis en maudit. Je suis heureux complètement, c'est confirmé. Trouver l'amour. Né à Sainte-Thérèse en 1959, il a eu 55 ans le 12 novembre. Il a grandi à Laval, au sein d'une famille de 5 enfants. Il était le petit dernier. Papa était fonctionnaire fédéral et travaillait entre Ottawa et Montréal. Il est décédé d'un cancer du côlon. Luc avait 12 ans. Et je l'ai peu connu. C'était un être aimant, très travaillant, mais ça laisse beaucoup de mystère de perdre son père à cet âge-là. Luc a su assez tôt qu'il tenait à jouer. Je me suis quand même inscrit à un certificat en environnement pour prouver que j'allais faire quelque chose. Je l'ai fait à moitié. Dans mon entourage, j'avais un ami en cinéma. Je lui ai servi de cobaye pour un projet de film. Le résultat était probant. Il m'a dit, « Tu sais, Luc, tu ne pourrais en faire un métier. » Je le savais, mais j'ai voulu faire taire cette voix. Impossible. Il a fait ses demandes à l'École nationale. Je m'étais pratiquée avec une amie. On s'était enregistré devant les membres du comité de sélection. Ils ont demandé comment il s'était préparé pour les auditions. Il a innocemment répondu, « Avec un magnétoscope. » Imagine, tout le monde paye des coachs professionnels pour préparer leurs entrées. Je ne m'étais pas meilleur qu'un autre. J'ai été chanceux. Cela dit, le comédien ne croit pas qu'en la chance. Il croit au travail et en quelque chose d'un peu moins tangible qui ressemble à de la projection. Il faut rêver. Je demande toujours à la vie de me surprendre. On est responsable de ce que l'on demande à la vie. Mais parfois, il faut prendre son temps pour bien réfléchir à ce qu'on demande. Est-ce bien cela qu'on veut? Parce que souvent, la vie répond, il faut être prêt à l'accueillir, à accueillir ce qu'elle nous propose. Le sujet revient souvent. Aimer, accueillir, embrasser. Dans le sens de prendre dans ses bras, remercier, être conscient, lucide, ouvert. L'amour, c'est quelque chose qui se développe à condition qu'on pratique ses aptitudes. Je n'ai pas toujours bien aimé. C'est un art dont il faut s'occuper et j'ai appris à le faire. L'amour dans ma vie, c'est le phare et avec Catherine, je me sens moins perdue. Je fais attention et ça, je m'efforce de garder cette relation neuve, comme un objet que tu ne veux pas user. Quand j'étais jeune, j'étais exigeant et je voulais tout. Et sans attendre, mais est-ce que je partageais vraiment? Je ne parle pas de matériel. À 55 ans, je peux affirmer que je suis heureux avec ma famille. Mais c'est le résultat d'un cheminement. Quel mot qu'étienne, mais tellement pertinent. Ça m'a aidé à devenir le meilleur comédien. Je reçois beaucoup d'amour et de reconnaissance quand on pratique mon métier. Je jure et j'en fais aussi un vecteur pour mettre l'amour que je reçois. Après cette rencontre, impossible d'en douter.
Noël sécuritaire avec notre animal de compagnie. Ben oui, il faut penser à nos petits animaux qui vont aussi avec qui il faut fêter Noël. Il a beau être habilement décoré, notre sapin comporte son lot de dangers. En effet, les glaçons et les guirlandes sont très prisés des chats qui aiment y mettre la patte et les mordiller, affirme le docteur Kuckermann. Chaque année, de nombreux chats sont hospitalisés après en avoir ingéré. De nombreux chats voudront grimper dans le sapin, le faisant ainsi tomber par terre. Les chiens à longue queue et ceux qui s'amusent énergiquement près de l'arbre peuvent aussi le renverser. Et si les boules se brisent en heurtant le sol, l'animal peut se blesser les coussinets en posant la patte sur un éclat. Pour assurer une bonne stabilité à l'arbre, on le fixe au plafond au moyen de fils à pêche et d'un crochet. Il y a les lumières décoratives aussi. Un grand nombre d'animaux utilisent les cordons électriques pour jouer. Pour éviter qu'un accident survienne chez nous, on débranche les décorations lumineuses lorsqu'on ne peut pas surveiller notre animal. Il y a la visite. Pendant les fêtes, les invités se succèdent pour festoyer. Toute cette animation peut causer du stress chez notre animal de compagnie. Dans plusieurs cas, il profitera du va-et-vient dans la maison pour prendre la poudre d'escampette. Et la dernière chose qu'on souhaite, c'est perdre notre animal. Le buffet, il est important de demander à nos invités de n'offrir de la nourriture à notre animal sous aucun prétexte. De plus, certains aliments sont toxiques pour les chats et les chiens. C'est le cas entre autres du chocolat et des raisins et des oignons. Et attention aux plantes, les plantes qui agrémentent notre décoration intérieure durant le temps des fêtes, comme le houx, le poinsettia et le gui, sont aussi extrêmement toxiques pour nos animaux.
Alors moi, en fait, je vais faire une petite transition du monde félin et canin au monde aquatique avec une courte brève de Pierre Barthélémy qui est parue, en fait, le 21 novembre dans le magazine Elle. Donc, l'intitulé de la brève s'intitule, en fait, « Mer étouffante ». Les océans meurent aussi, et pas seulement de la surpêche. L'homme a involontairement trouvé des moyens plus insidieux pour éradiquer la vie des estuaires et des zones côtières. Dans les mers se déversent nos eaux sales, agricoles ou urbaines, qui sont à l'origine d'un cercle vicieux. Chargés de nutriments, ces effluents font la joie d'algues qui s'engavent, mais lorsque celles-ci meurent, leur décomposition pompe littéralement l'oxygène dissous dans l'eau. Certains poissons, pas tous, ont le temps de se sauver, mais les animaux plus lents, comme les crustacés, périssent asphyxiés, et on ne parle même pas des bestioles qui vivent accrochées aux rochers. En 2008, un recensement paru dans Science avait fait état de plus de 400 de ces zones mortes dans le monde, essentiellement sur la façade atlantique de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Une étude américaine publiée le 10 novembre 2014 par Global Change Biology nous apprend que, dans la liste des causes, le réchauffement climatique vient s'ajouter à la pollution. Avec quelques degrés de plus, les cimetières marins risquent de proliférer. Un milieu plus chaud implique, par exemple, un besoin croissant des organismes en oxygène et un moindre brassage des différentes couches d'eau. Tout mis à bout, disent les chercheurs, pourrait mener à une cascade d'effets délétères, au point que les poissons risqueraient d'être confrontés à un choix dramatique, mourir de chaud dans les eaux de surface ou périr asphyxiés dans les profondeurs. De quoi nous laisser assez sensibiliser, puis de quoi nous responsabiliser par rapport au monde aquatique.
Le grand décompte beauté, c'est par Élise Jeté dans le coup de pouce de décembre 2014. Les cadeaux, le sapin, la tourtière, pause. Et si on pensait un peu à nous ? Voici nos trucs beauté pour la fin du mois jusqu'à Noël. Alors d'abord, prendre rendez-vous chez le coiffeur pour se faire coiffer par notre professionnel préféré le 24 décembre. Il faut prendre son rendez-vous longtemps à l'avance. Préparer sa liste pour le Père Noël. C'est le moment de faire des allusions subtiles pour que nos proches devinent ce qu'on aimerait recevoir sur notre liste. S'offrir des produits festifs. Pour celles qui ne se maquillent pas en temps normal, Noël est l'occasion d'éblouir la parenté. Pour les habitués, c'est le moment d'oser couleurs, brillants, paillettes. Tout est permis. Halt, on dort. Les études le confirment. Plus on dort, mieux nos cellules se régénèrent. On dit non à toutes les offres de sortie et on s'offre une nuit de 10 heures bien méritée. On applique ce truc le plus souvent possible durant tout le mois, histoire de faire des réserves d'énergie pour le réveillon et le jour de l'an. Se réconcilier avec ses mains. L'eau de vaisselle, les vents hivernaux et l'oubli constant de nos gants sur la table d'entrée. Nos mains ont vraiment toutes les raisons de nous en vouloir pour se faire pardonner. On les lave à l'eau tiède avec un savon doux. On applique un baume réparateur, un produit cicatrisant ou du miel sur toutes les gerçures profondes. On applique une épaisse couche de crème nourrissante à base de beurre de karité et on enfile des gants en coton qu'on garde toute la nuit pour permettre aux produits de faire leur effet. Trouver les plus beaux vernis. Qui, du temps des fêtes, dit brillant ? C'est le moment ou jamais de dire oui aux paillettes sur les ongles. Étancher la soif. Avez-vous bu vos 6 verres d'eau aujourd'hui ? Pour une bonne santé, 6 à 10 verres d'eau par jour sont nécessaires. Et c'est tout notre corps qui en bénéficie. Car l'eau rend la peau plus souple
et prévient l'apparition prématurée de rides. Ces jours de facial, rituel relaxant, le facial est idéal pour nous faire rayonner. Pour éviter de dépenser les sous destinés aux 1000 cadeaux sous l'arbre, on s'en fait un maison. On enfile notre peignoir et on remonte nos cheveux avec un bandeau pour se sentir comme au spa. On se nettoie le visage à l'aide d'un lait démaquillant ou d'une huile en frottant doucement. On fait bouillir de l'eau qu'on infuse avec des huiles essentielles ou même avec du thé de la fragrance de notre choix. On place notre visage au-dessus du bol en couvrant notre tête d'une serviette et on laisse la vapeur nettoyer nos pores durant 10 minutes. On poursuit avec l'application d'un masque, recette facile, 2 blancs d'œufs et 2 cuillerées à table de yaourt grec. Et on rince après avoir laissé le tout agir durant 15 minutes au son de notre musique préférée. On termine en appliquant notre hydratant préféré. On a aussi notre massage bien mérité. Voilà, on est à mi-chemin dans nos préparatifs. Les cartes de souhait sont envoyées, mais la moitié des cadeaux ne sont pas achetés. Le menu n'est pas au point, mais les bûches sont au congélateur. Aujourd'hui, on plonge dans un monde parallèle où la détente est reine. Rendez-vous chez notre massothérapeute préféré pour une pause détente nécessaire. Répétition générale. Si on a envie d'essayer de nouvelles techniques de maquillage, pour impressionner la galerie, au fait, il serait bon de les tester, de façon à pouvoir apporter les correctifs aux besoins. Comme c'est samedi, on profite de notre visage de star pour sortir au resto avec des copines. Le B.A.B.A. du rouge à lèvres. Facile de transformer un look de Noël en look d'Halloween, avec un rouge à lèvres mal appliqué. 4 étapes faciles pour une bouche parfaite. Exfolier les lèvres pour les libérer des peaux mortes, hydrater les lèvres et éponger le surplus de baume pour permettre au rouge d'adhérer. Définir le contour des lèvres avec un crayon de la même couleur que le rouge à lèvres et faire quelques lignes de crayon à l'intérieur des contours. À l'aide d'un pinceau à lèvres, appliquer la couleur sur la lèvre supérieure du milieu de la lèvre, vers la droite d'abord, puis du milieu vers la gauche. Remplir ensuite la lèvre inférieure en faisant un mouvement de va-et-vient de gauche à droite. Exfolier la peau fatiguée, on remédie vite aux petits coups de fatigue avec une exfoliation express. Cadeau à moi de moi, un soin des pieds. Durant la course aux emplettes, on s'arrête dans un salon de beauté. On achète un certificat cadeau pour un pédicure et on l'utilise. Les sourcils qui changent tout. Comme on ne veut pas avoir les paupières enflées le soir du réveillon, on procède à l'épilation de nos sourcils quelques jours avant le jour J. On n'hésite pas à consulter un spécialiste si la pince à épiler n'est pas notre outil favori. Un masque pour les cheveux. On redonne un peu de vie à notre tignasse écrasée sous la tuque à l'aide d'un masque capillaire. S'attaquer aux poils, c'est décidé, on portera une robe qui dévoile nos jambes. C'est la journée tout indiquée pour s'épiler entre deux courses. Manucure maison. On se fait une manucure maison qui permet de changer de couleur au gré de nos humeurs. Une nouvelle vie pour le teint. Un masque. Notre visage est aussi sinistre que notre compte de carte de crédit. On procède à l'application d'un masque éclat. Récréation pour pieds meurtris. Pas la peine de se mentir, il nous reste encore 1000 choses et courses de dernière minute. Pour reposer nos pieds meurtris après une journée de shopping intensive, on s'offre un bain de pieds. La recette, une demi-tasse de lait, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et un demi-citron dans une bassine d'eau chaude durant 15 minutes. On met des écouteurs sur les oreilles pour éviter d'être dérangé. Et enfin, on se repose la tête. On est responsable de la dinde, de la tourtière, de la bûche, du sapin et du cadeau de dernière minute. On n'est pas responsable de notre tête. Pause chez le coiffeur.
Bien, moi, je vais vous parler d'un article de Marie-Claude Lortie dans la presse, à table avec Philippe Dubuc, notre Philippe Dubuc, acheteur québécois. Philippe Dubuc adore le temps des fêtes, celui qui nous enseigne saison après saison l'art de décliner les tons sombres, les lignes simples, ou alors les élans de coupe un peu bruts, à mille lieues des grelots et de l'esthétique de la Fée des étoiles, accueille l'arrivée de décembre les bras ouverts. J'aime l'hiver, lance-t-il sans embâge. Pour un créateur, c'est inspirant. Quand il fait froid, on rajoute des pièces, on empile, on met évidemment des manteaux, mais aussi des pulls, des chapeaux, des écharpes, et c'est sans parler des chaussettes. D'ailleurs, si je comprends bien, les chaussettes de Designer Cool sont en haut de sa liste pour le Père Noël. Pas besoin de dépenser des millions, dit-il, pour se faire plaisir. Nous sommes au Titanic pour le lunch, rue Saint-Pierre, dans le Vieux-Montréal, à deux pas de la nouvelle boutique homonyme du designer. Avec des années rue Saint-Denis, où étaient centralisées toutes les activités de l'entreprise, Dubuc, une des griffes québécoises aujourd'hui les plus connues, notamment par son rayonnement à travers la chaîne Simon, a décidé de changer d'air. Toute la vente au détail se fait maintenant rue Saint-Pierre, juste en arrière du centre Phi, et la partie atelier est rendue rue Marianne, dans un loft. Le créateur, qui a été obligé de déclarer faillite il y a près de 10 ans avant de retrousser ses manches et de repartir à neuf, essaie un nouveau modèle d'organisation. Dans le Vieux-Montréal, il devrait y avoir au printemps des produits pour femmes. Je ne veux pas en dire trop encore, mais ça va être axé sur un look dans lequel je suis bon. Et c'est rare qu'on se trouve bon, non? J'ai demandé à Philippe Dubuc de venir luncher parce que souvent, quand je le croise, il me parle avec passion de l'importance d'encourager les entreprises montréalaises. Pour lui, Toronto ne sera jamais aussi intéressant que Montréal, à côté. Côté shopping, New York, Paris, pourquoi aller si loin quand on a tant ici? En ces temps de magasinage intense, je trouvais le sujet à propos. Y a-t-il uniquement des produits québécois ou achetés chez les détaillants québécois sur sa liste de Noël de ce grand monsieur à la barbe toute blanche, malgré ses 48 ans? Et comment fait-il alors pour acheter ses chaussures de course? Car Dubuc est un jogger, un autre, qui aime bien aller évacuer le stress sur le Mont-Royal en écoutant de la musique et en pensant à rien. C'est vrai que je crois beaucoup à l'achat local, explique-t-il. Pour chaque geste de consommation, il y pense, que ce soit à l'épicerie ou chez le quincailler. Il se demande d'où vient ce qu'il achète et ce qui est marchand. Et qui est ce marchand? Évidemment, on est tous libres d'acheter ce qu'on veut, admet-il, mais moi, j'achète ce que j'aime et souvent ça vient d'ici. Selon lui, certains consommateurs seront toujours adeptes des grandes marques américaines ou européennes. Pourtant, la réalité, tient-il à ajouter, c'est que ce n'est pas parce que ça vient d'ailleurs que c'est mieux. On accote les plus grands. C'est souvent le marketing, croit-il, qui est alors plus efficace. Cela dit, selon lui, une partie de la bataille est déjà gagnée parce que les Québécois aiment consommer québécois. Ce n'est pas du tout le seul à penser ainsi. C'est comme pour les films ou la télé. Ici, on consomme beaucoup plus québécois que les Ontariens consomment ontariens. Élevé à Sainte-Thérèse, dans une famille à tendance artistique, avec une mère qui détestait le gaspillage, Dubuc a appris, dit-il, à créer avec peu de moyens. C'est ce qu'on dit souvent des Québécois. Ils sont créatifs car ils doivent travailler avec les moyens modestes. Ainsi, une veste devient hyper luxueuse car elle est doublée avec des retailles d'étoffes somptueuses, si on savait tout ce qu'on peut faire avec des bouts de tissu. En effet, si on savait tout ce qu'on peut inventer, point. Malgré les échecs, le designer revient toujours, négocie les courbes, se réinvente, se recentre. J'espère que je peux être inspirant, dit-il. Lui, en tout cas, est inspiré par le cinéaste Xavier Dolan, qui travaille fort, réinvestit dans ses films, continue toujours. La vie est trop courte pour perdre son temps, note Dubuc. Moi, je lève mon chapeau à tous ceux qui font quelque chose.
Quelques bergers endormis. son berceau, les bergers tout émus firent la révérence en un profond respect. Et les rois de l'Orient ont offert à Jésus les plus riches présents, l'or, la myrrhe et l'encens. En ce jour, avec ferveur, chantons d'un même cœur pour la gloire éternelle du Maître des cieux, qui de rien a fait le ciel, la terre et l'univers, et sauvé du péché toute l'humanité.
Eh bien, on vient d'entendre Claire Pelletier avec Premier Noël et on a la chance d'avoir Clotilde avec nous qui vient nous fêter un petit Noël dans le studio. On est très contentes toutes les trois d'avoir notre star avec nous.
J'aime tellement ça quand je vois à l'émission Kiosque Magazine trois ou quatre personnes autour de la table. Et si vous voyez autour de nous, là, c'est rempli justement de magazines, d'articles. C'est un joyeux bazar de Noël extraordinaire. Oui, merci beaucoup de m'avoir accueillie. Les filles, pour une fois que je suis prête un quart d'heure avant d'entrer en onde.
Ben oui, on en profite.
Parce que généralement, je rentre toujours à la dernière seconde. Alors, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël, de joyeuses fêtes. Et puis, je voulais vous remercier. J'ai rarement l'occasion de le faire. Alors, je voulais vous remercier pour votre fidélité d'être là toutes les semaines, bénévolement, je le rappelle, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle, qu'il verglace, qu'il neige. Ils sont là tous les matins pour vous, du lundi au vendredi, de 9h à 10h. Et je trouve ça vraiment exceptionnel, puis je voulais vous le dire. Alors, joyeuse fête à vous
joyeuse
trois.
Fête, joyeuse fête. Et puis pour nous aussi, c'est un plaisir. Voilà, d'accord. Un grand plaisir.
Alors, sur ce, quand même, il me reste des petites choses à finaliser avant de prendre...
Et nous, on a des articles à lire. Hein.
Alors, je vous laisse. Alors, vous allez entendre un gros bruit de porte de studio et on aime ça.
Voilà.
Au revoir, Clotilde.
Au revoir.
Au revoir.
Mon premier Noël sans mes enfants. Alors, c'était sympa d'avoir Clotilde avec nous un petit moment.
Mais oui,
comme
c'est
ça.
Pas toujours bien.
Mon premier Noël sans mes enfants, c'est par Nadine Deschenaux et c'est dans le coup de pouce de décembre 2014. Habituellement, quand arrive le temps des fêtes, on est aussi ému et presque aussi surexcité que les enfants. Mais si on vient de se séparer et que c'est notre premier Noël sans eux, on n'a pas le cœur à la fête. Ça rejoint un petit peu ton article, le premier article que tu as lu, Janine. Noël sans les enfants a quelque chose d'irréel. Souvent, c'est pour eux qu'on a renoué avec nos propres Noëls d'enfants et qu'on a remis de la magie dans nos vies. Puis pouf, ils ne sont pas là le jour J. Bien sûr, on peut s'entendre avec notre ex sur des horaires de garde modifiés, mais vient toujours un moment où on se dit « ils auraient dû être là ». Et là, les larmes coulent. J'en ai versé des larmes, ma première veille de Noël sans eux. Une fois la porte refermée, après avoir joué à la maman forte qui encourage ses petits, j'ai laissé libre cours à mes émotions. Une étape normale. Noël nous ramène à notre propre enfance et nous rappelle le temps qui passe. On se voit vieillir et c'est souvent l'occasion de bilan personnel. Difficile alors de vivre les grandes émotions liées à la séparation tout en restant dans notre rôle de parent, soit de rassurer notre enfant et lui permettre de vivre cette transition en douceur. En ce premier Noël sans les enfants, on doit décider ce qu'on veut vraiment. Être seul avec la famille ou avec des amis, parler de notre peine ou éviter le sujet. On met les choses au clair pour nous d'abord. Ensuite, on demande de l'aide aux besoins. On peut faire passer le message par notre sœur qu'on ne veut pas se faire parler de la séparation par la famille. Puis, on saisit l'occasion de créer de nouveaux rituels. On a enfin le choix de perpétuer certaines traditions ou de les réinventer. On peut aussi en profiter pour arrêter de faire ces choses qui nous plaisaient à moitié. La visite chez la cousine éloignée, la dinde, l'échange de cadeaux, ridicule. À chacune de créer une fête qui lui ressemble. Pour ma part, je me suis offert un cadeau de moi à moi. Bain moussant, chocolat, un carnet d'écriture et une série télé. Certaines organisent une sympathique réunion d'amis parce que non, tout le monde n'est pas en famille ce soir-là. D'autres se changent les idées en faisant une chose dont ils avaient envie depuis longtemps. Faire du bénévolat pour être peut-être une bonne idée, car cela permet de sortir de soi et d'aller vers les autres. Sentir qu'on peut aider, faire une différence. Même quand on ne va pas super bien, ça nous fait vivre un moment beau et humain qui nous réconcilie un peu. Puis, le soir venu, on s'écoute. Je me rappelle avoir eu besoin d'extérioriser ma peine. Ayant rebattu les oreilles de mes proches et amis dans les mois précédents, je les ai épargnés, j'ai ouvert Facebook. Rapidement, je suis tombée sur quelques copines qui étaient aussi sans leurs enfants. On a échangé quelques mots pour mettre un baume sur nos cœurs à vif ce soir-là. J'ai pu leur dire ma peine et nommer mon ennui sans me sentir jugée. Puis j'ai continué ma soirée et déballé mon cadeau. Noël est un jour comme les autres, ou presque. Un jour de plus pour apprivoiser notre nouvelle vie. Mais surtout, une journée à réinventer à notre façon. Et j'ai aussi un autre texte en déboulant vers Noël qui nous montre à quelle vitesse va la vie et les années. C'est par Geneviève Rossier, qui est la rédactrice en chef de Coup de pouce. Et c'est dans le Coup de pouce du mois de décembre. Tout a commencé fin septembre, au sommet d'une pente d'herbe encore verte. Si on se couchait par terre et si on se laissait rouler jusqu'en bas, comme quand on était petit. Au début, la descente était douce. Un peu d'air mouillé par-ci, un petit vent d'automne par-là, l'odeur de sauce aux pommes et le cri des outardes. Puis, une feuille morte s'est accrochée à mon pull et une autre et finalement, plein de feuilles mortes sont collées à mes cheveux, mes bras, mes jambes. Oups, je vais de plus en plus vite. Je vois défiler un anniversaire, puis un autre, et celui de mon fils qui a 20 ans. Le temps de le voir partir heureux dans la vie et de me dire « c'est déjà fini » et la course folle reprend de plus belle, dans une pente maintenant drôlement à pic. Au loin, ma petite fille devenue grande m'envoie la main, mais de l'autre, elle texte comme si sa vie en dépendait. À gauche, je vois mon conjoint se débattre avec un contrat difficile. Il parle d'optimisation et de moteur. « Attention Geneviève, une citrouille te fonce dessus par la droite. Suis-je dans un jeu vidéo du type les citrouilles en colère ? Évitez de justesse, la grosse courge. » Et puis, coup de froid. La première neige fait switch sous le poids de mon corps qui roule de plus en plus vite. Déjà de la neige, mais elle ne reste pas. Retour à la terre mouillée et la bouette. Accumulation de brins sales. Vivement l'arrivée de la vraie neige qui reste, celle qu'on ne pourra plus supporter en avril. La voilà, mais je vais tellement vite que je me rends à peine compte qu'elle colle à ma peau. Me voici au milieu d'une grosse boule de neige, comme celle qu'on faisait pour la fête du bonhomme année de carotte. Je n'entends plus rien, je ne vois plus rien, mais je roule à une allure d'enfer et franchement je ne contrôle plus grand-chose. Au loin, j'entends mon amoureux « Ralentis, profite de l'hiver, fais du ski de fond, respire, impossible ». La vitesse m'entraîne malgré moi. J'attrape au passage un cadeau et je fais emballer parce que sinon, il sera tout nu sous l'arbre. Et soudain, là, devant moi, au pied de la pente, un magnifique chalet de pierre dans un paysage féerique. J'anticipe le choc, mais la grosse boule de neige que je suis s'arrête doucement contre le mur. Je reste là pendant que le mélange de glace et de slotch qui m'entoure fond contre la pierre. Puis j'entre dans le chalet comme Alice au Pays des Merveilles et je tombe dans le grand sofa mou devant le feu de bois. Les voix sont familières, je suis dans ma tribu, ma famille, mes amis, ceux avec qui je peux être moi, juste moi. Mon fils aîné me tend un chocolat chaud, le cadet me fait un de ses câlins magnifiques. Mon amoureux arrive avec une couverture de mohair et ma fille me demande « Ça va maman ? T'es sûre que t'es correcte ?» Bon, eh bien, J'ai encore une fois déboulé vers Noël. Je n'étais pas dans un jeu vidéo, mais dans la vraie vie, et je ne suis pas morte. Ouf ! C'est Noël, j'arrête, je débranche, et je prends tout le temps qu'il faut pour contempler le bonheur autour de moi.
Donc, après ces deux articles qui nous laissent à penser le temps des fêtes et un petit peu, je le voyais un petit peu comme une occasion pour faire un petit bilan sur nos vies, puis des occasions aussi pour ralentir un peu le temps, ben, on l'espère. Oui. Moi, je vais vous emmener en fait vers une petite brève du magazine Moi et compagnie du mois de novembre 2014, avec une petite rubrique qui est la rubrique Conseil sur l'électricité statique. Alors, rubrique conseil, et si on mettait l'électricité statique KO? Les changements de saison viennent avec leur lot de petits problèmes et l'électricité statique en fait partie. Quelques trucs pour s'en débarrasser. Premièrement, pensez naturel. Privilégiez des vêtements faits de fibres naturelles comme la laine ou le coton qui ne sont pas affectés par l'électricité statique. Deuxièmement, un petit plus dans la laveuse. Savez-vous qu'en ajoutant du bicarbonate de soude à votre lavage, vous pourrez diminuer les effets indésirables de la statique? C'est si simple, donc à essayer. Exit la sécheuse. Et oui, le combo sécheuse et tissu synthétique fait des ravages sur vos vêtements préférés et sur vos cheveux, bien sûr. Ensuite, feuille d'assouplissant à portée de main. Vous êtes au bureau et votre tunique s'agrippe furieusement à vos collants? Gardez dans votre tiroir de bureau quelques feuilles d'assouplissant pour ces moments gênants et frottez-les sur et surtout sous les vêtements récalcitrants. Si aucun de ces trucs ne fonctionne, procurez-vous un vaporisateur antistatique dans les grands magasins. Au grand mot, ma foi, les grands remèdes.
Eh bien, mon enfant ne veut pas se coucher. Voici quelques trucs pour écourter les négociations. Évitez de changer le rythme. Il est important que l'enfant ait des repères aussi fixes et réguliers que possible quant aux heures de coucher. Établir un rituel stable. Si la routine qui précède le dodo n'est jamais la même, l'enfant peut moins facilement anticiper les problèmes, les prochaines étapes. Limiter le temps devant l'écran. Des études ont démontré que la télévision peut avoir un effet excitant chez certains enfants. Lui faire pratiquer la respiration méditative. Après quelques minutes de respiration lente et profonde, allongé dans son lit, l'enfant devrait être plus calme et donc plus disposé à s'endormir. Proposer des solutions. Si le sommeil ne vient pas tout de suite, on conseille à son enfant de regarder un livre, d'écouter de la musique douce et d'imaginer de belles choses.
Alors, eh bien, dodo. Ça va nous servir pour tous ces enfants à Noël, ça. Hein? De très joyeuses fêtes à tout le monde, vraiment. Nous, on se retrouve le 7 janvier 2015 avec autant de plaisir que maintenant. Merci à Jean-Sébastien pour la mise en onde et ses magnifiques choix musicaux qu'il nous a fait tout au long de cette année 2014. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à laisser un message au 1-800-361-0635, poste 220, ou sur notre site internet canalm.org. À l'année prochaine.
Joyeuses fêtes. Hein?
Oui. On vous retrouve avec grand plaisir. À le 7 janvier. Bonne fête.